Jean-Claude Castel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Corbière, vice-président de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, conseiller départemental sur Manosque, délégué à l'agroalimentaire. Depuis hier soir, le couvre-feu est anticipé dans les Alpes de Provence, c'est-à-dire qu'il est avancé à 18h. La préfecture avance un rebond épidémique avec un taux d'incidence aujourd'hui de 216 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 8,6%. Comment vous prenez cette mesure, Jean-Claude Castel ?
Ben écoutez, je la prends un peu comme toutes les autres. Hein. On s'agite dans tous les sens pour faire croire qu'on fait quelque chose. En fait, je vois pas qu'est-ce que ça peut apporter en mieux ou en plus mal, à part ruiner un peu plus notre économie et désespérer à la fois les gens qui sont privés de leur liberté et les commerçants, les artisans qui sont en train de faire faillite les uns après les autres.
Alors justement, vous avez partagé il y a quelques semaines une vidéo de Jean-Marie Biégard. Il était chez nos confrères de France Bleu, il parlait du chemin de la vérité. Je vous propose de le réécouter.
Schopenhauer, écoute bien, disait « La vérité passe par trois étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, allez carrément attaquer, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. »
Et alors, il continuait, il disait « On organise une dictature chez nous, on nous manipule, on fait crever nos commerces. » C'est un peu le même message que vous portez ce matin.
Ben évidemment, on est presque obligé, même si c'est toujours un peu excessif, mais on est presque obligé d'être d'accord avec ça. Moi, l'autre jour, je suis tombé sur par hasard sur une citation d'une dame qui était politologue, philosophe, journaliste américano-allemande. Elle s'appelait Hannah Arendt. Et elle disait quelque chose un peu comme ça. Alors, c'est pas Jean-Marie Bigard, c'est une philosophe. Elle disait « Quand tout le monde vous ment en permanence, la vérité n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais qu'en fait, tout le monde ne croit plus rien du tout. Et quand on ne croit plus rien, on ne peut plus se faire une idée. Un peuple qui ne croit plus rien ne peut plus avoir un avis. Il est plus libre de penser, de réfléchir et d'agir. Et avec un peuple comme ça, on peut bien faire ce qu'on veut. » Ça, c'était Hannah Arendt qui le disait. C'était pas Jean-Marie Bigard, quoi. C'était pas Jean-Claude Castel.
À qui profite le crime, selon vous ?
Eh ben voilà. Vous savez, je viens d'envoyer, puisqu'on n'a pas pu faire la cérémonie des vœux, hein, qui est un moment très important dans une petite commune comme la nôtre. Bon, 1300 habitants, il y a toujours 300 personnes qui répondent à l'invitation des vœux. C'est énorme. Bon, c'est un des événements qui marque la vie communale, la vie d'un village. Donc j'ai fait une lettre que j'ai envoyée à tous mes concitoyens pendant ce week-end-là. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Mais quand on reprend depuis le début, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais à qui profite le crime ? Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. La première des choses, c'est on ne sait toujours pas comment ce virus a démarré, un. Deuxièmement, pourquoi cet acharnement à avoir refusé d'utiliser plus que ce qu'on l'a fait le protocole du docteur Raoult ? Je ne comprends pas. Ce serait un guignol, mais le mec quand même, c'est une sommité. Il a un système qui est peut-être pas parfait, mais qui quand même donne des résultats. Pourquoi est-ce qu'on a vilipendé cet homme ? Pourquoi est-ce qu'on se refuse à utiliser la méthode qu'il a, lui, et qui fonctionne, même si c'est pas à 100%, fonctionne quand même.
Et pourquoi vous n'avez
pas de réponse ? J'arrive pas à le comprendre. J'ai pas de réponse.
Et donc,
moi, ce que je sais, c'est que beaucoup de ceux qui ont la gueule ouverte en nous expliquant ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, quand ils ont été malades, eux, ou quelqu'un de leur entourage, ils sont vite allés comme des petits garçons voir le professeur Raoult.
Donc aujourd'hui, toutes voilà. Les mesures qui sont mises en place, notamment par la préfecture des Alpes-de-Provence, je pense au port obligatoire du masque, je pense au couvre-feu anticipé, je pense aussi aux mesures de confinement qui ont pu être mises en place aussi il y a quelques semaines. Tout cela, vous le contredisez, vous le rejetez.
Non, mais je le contredis pas. Je ne sais pas, moi je suis pas un scientifique, mais on est quand même en droit de se poser des questions quand on voit le pas en avant, le pas en arrière. Aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir. Au bout d'un moment, on peut plus. Enfin, je sais plus. On sait plus à qui se fier, quoi. Là, maintenant, depuis quelques jours, on peut pas allumer une radio, on peut pas allumer une télé, on peut pas ouvrir un journal sans qu'on nous rabâche les oreilles avec la vaccination. Comment Enfin, comment c'est possible qu'on ait pu mettre au point un vaccin en si peu de temps? Il faut le trimballer dans des conditions abominables, moins 70 degrés, moins 80 degrés. Enfin, je sais pas, je suis...
Vous n'irez pas vous faire vacciner?
Ah, sûrement pas, non, sûrement pas. Sûrement pas.
Jean-Claude Castel, poursuivons avec d'autres sujets, parce qu'il y en a. Hein. Au sein du département, le budget a été voté avec 6 abstentions, 2 voix contre, celle notamment de Sandrine Cosera. L'élu constatait sur notre antenne que le département était dans un état, et je la cite, de somnolence inquiétant parce qu'on n'a rien lancé pour relancer la machine. Le budget s'inscrit dans la continuité, mais pas dans la relance. Pire pour elle, rien n'est fait pour l'insertion. Il y a seulement 2% des dépenses pour ce domaine. Ce qui veut dire, selon Sandrine Cosera, qu'on a fait le choix de l'assistanat.
Non mais... on sent que les élections sont proches, quoi. Et moi, vous savez mon positionnement politique. Bon, et personne n'ignore mon positionnement politique. J'ai fait le choix de rejoindre René Massat il y a 3 ans pour 2 raisons. La première des raisons, c'est qu'il était hors de question, mais alors hors de question pour moi, que Christophe Castaner apporte sur un plateau d'argent le premier département de France à Emmanuel Macron et sa LREM, qui pour moi sont un mirage. Enfin, ça a été un coup extraordinaire, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est rien du tout, quoi. C'est vide, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de grandes idées qui sortent, il n'y a qu'une destruction de la France petit à petit. Bon, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je pensais, et je le connaissais depuis longtemps, René Massat, un honnête homme, et une fois qu'on est élu, quand on veut se faire élire, on défend nos convictions politiques. C'est tout à fait normal. Mais une fois qu'on est élu, il y a le travail devant. Et comme je dis tout le temps, quand il faut boucher un trou dans une route, c'est ni rouge ni bleu. Il faut boucher le trou et on le bouche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec René. Et si aux prochaines échéances, quand un jour elles auront lieu, on ne sait pas quand, je repartirai moi avec mon positionnement politique, parce qu'il est hors de question de mentir aux électeurs et de se cacher. Mais j'ai été très fier de travailler avec René parce que on a fait beaucoup de choses. Alors c'est facile de dire quand on n'est pas aux manettes, de dire ah ben ce budget il est pas volontariste. Mais c'est quoi un budget volontariste? C'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Alors moi je pense que on a fait un budget qui est à la fois prudent. C'est-à-dire que qui permet de garder une situation financière. Finalement, on parle plus que ça influence toutes nos phrases. Une situation financière équilibrée au département, mais en même temps, il y a un tas de choses qui se font. Il y a 3,5 millions d'euros qui ont été dépensés que pour le Covid. C'est énorme, 3,5 millions d'euros quand même.
Et donc justement, pour ces prochaines élections, Jean-Claude Castel, vous repartirez une nouvelle fois, j'allais dire, avec René Massat s'il repart, ou là vous allez regagner votre positionnement politique de droite, c'est-à-dire d'opposition à la gauche?
Ça va être quoi votre position à la gauche, surtout la pseudo-gauche de macroniste, parce que alors là, eux, je peux pas les voir. Franchement... comment Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir? Pour moi, je l'ai rencontré, ce monsieur. Je l'ai rencontré en janvier, complètement par hasard, quelques mois avant son élection. J'ai pu discuter avec lui comme je discute avec vous aujourd'hui. J'ai compris tout de suite que c'est pas un homme, c'est une chose qui a été fabriquée. Qui a été fabriquée pour être positionné là et pour appliquer ce qu'on lui demande de faire. Dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial, cher à Soros et ses milliardaires amis, c'est insupportable.
Vous serez donc
ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des pions.
Vous serez donc capable de refaire une alliance, justement, contre l'État politique d'Emmanuel Macron?
Moi, je vous le dis clairement, et c'est assumé, et je continuerai dans ce positionnement jusqu'au bout. Moi, je reprends ma liberté le temps de la campagne électorale pour développer les idées qui sont les miennes, qui sont les nôtres. Après, une fois élu, comme je le disais tout à l'heure, élu ou pas élu, mais dans l'hypothèse où on est élu, il va falloir constituer une majorité pour pouvoir travailler au service des Alpins de Haute-Provence, pour faire avancer nos territoires et pour continuer à développer des collèges, des routes, des moyens de transport, une politique sociale qui tienne la route, d'accord ? On verra avec qui on l'a fait. Si on est en capacité de la faire tout seul, ben on la fera tout seul. Si on a besoin d'alliance, eh bien on fera des alliances avec des gens que j'estime dignes d'être dans une alliance, voilà.
Alors vous, on le disait en début d'interview, vous êtes conseiller départemental élu sur Manosque, un territoire oublié comme le pense le maire de Manosque, hein, Camille Galtier. Manosque a souffert ces dernières années d'une différence de traitement par rapport. Je vous entends déjà souffler par rapport à Digne. Bon, ça n'inspire pas plus que ça cette déclaration.
Non, mais si, Camille Galtier, je le connais depuis toujours. C'est un jeune homme talentueux, énergique et qui rêve la politique. La politique, pour lui, c'est son métier. Bon, c'est comme ça. Il en faut, c'est très bien. On a besoin de jeunes talents.
Vous aimez peu les jeunes, hein, qui rêvent la politique et qui en font leur métier.
Ben, c'est-à-dire que moi, je pense qu'avant de vouloir expliquer la vie aux autres, il faut l'avoir déjà un peu vécu. Notamment économiquement et dans le sens de l'entrepreneuriat, quoi.
Et donc,
bon, après, c'est mon avis à moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour en revenir aux déclarations, quand nous avons récupéré le département avec René Massette en 2017, il est vrai que la politique de distribution des aides départementales aux communes, aux territoires, elle n'était pas très claire, elle n'était pas très transparente. Nous avons souhaité mettre en place un système qui est, qu'on peut juger bon ou mauvais, mais qui est indiscutable en termes de transparence. C'est la contractualisation. C'est-à-dire que nous avons créé une clé de répartition qui compte trois éléments. La population d'un territoire, la superficie d'un territoire et le coefficient d'intégration fiscale de ce territoire. Et à partir de cette clé, nous avons divisé le département en 8 territoires. Et en appliquant cette clé, ça donne un pourcentage des aides départementales qui sont attribuées à chacun de ces territoires. Donc forcément, il y a des territoires qui ont 25%, d'autres qui n'en ont que 21%.
Alors, dernière question.
Et Camille ne comprend pas, on a essayé de lui expliquer plus d'une fois, il ne comprend pas que seule la population ne soit pas prise en compte. Parce qu'évidemment que Manosque, c'est la ville la plus peuplée. Voilà.
Dernière question. Manosque n'est pas une ville comme une autre, selon Camille Galtier.
Dans l'agglo. Oui et non.
Dans l'agglo.
Au départ, c'est une ville comme une autre. Un. Deux, c'est la plus grande ville du département, le poumon économique du département. Ça, c'est indiscutable. Et donc, celui de l'agglo, par définition.
Et si vous sortez Manosque de l'agglomération, il n'y a plus d'agglo. C'est ce qu'il disait dans les colonnes de la Provence.
Ouais, ça sera plus la même agglo, quoi. Ça sera plutôt une communauté de communes comme on avait avant.
Merci beaucoup.
Parce que, maintenant, il est indéniable que moi, je suis manosquien de cœur, hein. Je suis né à Manosque, j'ai fait mes études à Manosque, j'ai fait du sport à Manosque, j'ai porté les couleurs de l'EPM Rugby sur mes épaules, les couleurs de Chauma Moto Manosque sur mes épaules quand je courais. Et Manosque, c'est ma ville de cœur, bien sûr. Et ce sera toujours la ville centre. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup Jean-Claude Castel d'avoir été avec nous ce matin, maire de Corbières, vice-président de la DLVA, conseiller départemental des Alpes-de-Provence. Merci.
Merci.